Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la nouvelle interview du Guillotine Podcast avec aujourd'hui un invité exceptionnel, le plus grand pirate de la rive sud, mais aussi le plus grand featherweight canadien du moment, grand espoir, grand prospect, super combattant et gars super fun, Charles R. Jourdain. Comment vas-tu, Charles?
Ça va bien, Arnaud. Merci beaucoup de me recevoir, man. J'apprécie énormément.
Ben, merci à toi, ça fait vraiment plaisir de t'avoir sur le podcast. On va rentrer directement dans le vif du sujet. T'as eu pas mal de choses qui se sont passées en 2022 et 2023. Au jour d'aujourd'hui, on est en juillet. C'est quoi l'activité pour Charles Jourdain? Est-ce qu'on peut espérer un combat cette année et un autre?
Ouais, c'est en fait c'est une première, je vais vous le dire ici. Je vais combattre le 23 septembre. Malheureusement, je ne peux pas encore divulguer l'adversaire parce qu'on vient de signer les papiers. C'est un Brésilien. Malheureusement, ce n'est pas celui que tout le monde espère. Ce ne sera pas le capitaine Barbosa. Mais non, mais c'est un très bon combattant brésilien chez les poids plumes. Un bon nom, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, quelqu'un qui a gagné. Souvent contre des gars d'ici, des gars des States, c'est un très beau combattant. Puis, ouais, fait que c'est ça. Le 23 septembre, ça va être le prochain combat. Souvent, on pense qu'on prend des vacances après les combats. Il y en a que oui, mais moi, si je ne m'entraîne pas, je vais en dépression. Je fais ça depuis tellement longtemps que moi, mon mode de vie parfait, même si j'étais, mettons, millionnaire, je ferais la même chose. Je me réveille, je vais au gym, je reviens, je mange, je dors. Je retourne au gym, je mange, je dors. Pour moi, c'est la vie de rêve que je vis en ce moment. Fait que je suis pas off. Je suis en meilleure forme que j'ai jamais été en ce moment.
Mais justement, j'ai une question par rapport à la régularité de tes combats. Et j'ai entendu chez MMA Talk que lors de ton combat contre Nathaniel Wood, ton corps était un peu fatigué et que physiquement, c'était un combat qui était un peu dur pour toi. Et justement, tu t'es combattu environ un mois et demi après contre Shane Burgos, où justement, tu nous avais fait une performance de fou. Et beaucoup de fans encore se rappellent de ce troisième round de folie. Tu disais que c'était un peu fatigué, puis ça a été difficile, surtout dans le domaine de la lutte contre toi, qui est un domaine qui requiert énormément de gas tank, évidemment, dans la cage. Est-ce que tu penses que c'était peut-être un peu trop tôt? Est-ce que tu regrettes d'avoir pris ce combat? Ou alors, avec le recul, tu prends une leçon qui est peut-être j'aurais dû attendre un peu. Comment tu te ressens par rapport à ça?
Exactement, tu le dis, quand on peut pas vivre avec des regrets quand on essaye, je peux pas regretter d'avoir tenté ma chance. Je pense que le regret vient quand on n'essaye pas, puis on n'apprend rien. Fait que non, je tire du positif de ça. Voilà pourquoi je prends du temps maintenant entre les combats. Puis dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'ai fait 6 coupes de poids dans une année. Fait que c'est 6 fois où j'ai perdu 20 à 25 livres très rapidement, dont le combat qui était supposé arriver avec Topuria, même si le combat n'a pas eu lieu. J'ai quand même, à quoi, 5 jours d'avis, je suis monté à c'était où déjà? C'était en Californie. Je suis monté en Californie, j'ai fait le poids, tout ça pour me faire dire non, finalement, ça ne marchera pas. Ah, finalement, on a Lando Vannata dans quelques semaines. Après, le Vannata, vu que c'était une victoire expéditive. Mais même si j'étais magané du camp d'entraînement, là, OK, on se bat contre Burgos. Là, après ça, Burgos, close decision. C'était comme mon entrée dans le top 15. Puis là, aux yeux de plusieurs, je me suis fait voler, entre guillemets, mais c'est la vie, on continue. Puis là, je voulais me battre à UFC Paris 1 mois et demi plus tard. Puis là, à un moment donné, dans le fond, quand on fait le concept de réhydrate, c'est que je pars à peu près de 160, je descends à 145, qui est quand même une coupe importante. Puis d'habitude, je me réhydrate. Je pars, en fait, excuse-moi, je pars de 165, je descends, je perds les 20 livres durant la semaine et j'arrive à 145 et je remonte. Ce qui est arrivé, c'est que mon corps, il me dit fuck you. Je suis écœuré que tu me fasses ça. Fait que j'ai descendu à 145 en 24 heures de réhydrate, que d'habitude, je remonte à peu près à 160. J'étais remonté à 147. Fait que j'avais pris 2 livres en 24 heures. À chaque fois que j'essayais de manger quelque chose, je vomissais. Mon corps était shot. Fait que techniquement, je me suis battu au poids que j'ai fait, 1 livre et quelques de plus. Puis j'étais défoncé, physiquement, mentalement. Puis j'étais juste normal, fuck it. Puis j'ai regardé le fight 1 ou 2 fois. J'aime pas regarder des combats comme ça. Mais c'est un très bon combat. Mais malgré les échanges au sol, même si j'étais vraiment pas en shape, même si j'étais magané, j'ai fight. Fait que, mais c'est, ouais, ça a fait mal ça, mais quand ça fait mal, ben, tu t'assois, tu regardes, tu apprends, tu t'assures de ne pas faire la même erreur deux fois, tu fais une préparation adéquate avec du temps adéquat, puis regarde, j'ai fait un 30-27 contre un spécialiste étant Crown Gracie parce que j'ai pris le temps. Je pense, avec le type de camp d'entraînement et le type de performance que j'ai fait, je regarde le top 15, puis c'est très accessible si je me penche plus sur la victoire que sur le spectacle. Fait que je suis très content de l'opportunité que UFC me donne avec le prochain adversaire pour ensuite, c'est ça, viser le top 15. Puis je regarde les gars, puis je suis comme, I can beat them. Peut-être que je peux pas faire le plus gros show, but I can beat them.
Mais c'est super intéressant ce que tu me dis parce que ça enchaîne sur les questions suivantes. J'ai envie de parler vite fait de ta performance de Gracie, mais pas de la performance en elle-même, parce que moi, je trouve que personnellement, tu as fait absolument ce qu'il fallait faire, garder une bonne posture, pas te rapprocher de lui, parce que évidemment, en MMA au sol, tu veux garder les gars proches de toi pour tenter des soumissions, etc. Toi, tu as travaillé comme un cochon pour garder ta posture, le garder au sol et garder ses épaules vraiment bloquées. Yes. Et ça a été beaucoup de travail. Et ce qui a peut-être été un petit peu frustrant pour toi, je te le demande si ça l'a été, c'est qu'il y a eu un sentiment général de « bon, bah, au final, Gracie a fait une performance, une piètre performance et peut-être que toi, ton travail, ta discipline, ta patience dans ce combat n'a pas été vraiment mise en avant ». Et comme tu le dis, je trouve que tu mûris beaucoup là-dessus, c'est que tu vas chercher la victoire avant d'aller chercher la performance. Mais bon… On te connaît hein, dans la cage, t'aimes bien dans la poche, etc. T'es une Anglaise un peu fofolle et tout, t'adores ça, quoi. Et nous, on kiffe, pareil. Mais comment tu te sens par rapport à ce que j'ai dit, le fait que les gens aient un peu trop mis en avant peut-être la performance de Gracie par rapport à la tienne, pardon.
C'est bien correct, parce que quand quelqu'un paraît mal, c'est que tu le fais paraître mal. Parce que c'était pas... c'est comme des fois les gars mettent des vidéos de contre un punching bag, puis le monde sont impressionnés, mais c'est comme fuck, le sac est pas revenu, le sac t'a pas frappé. Fait que dans le fond, ce que je veux dire par là, c'est que tout ce que Crown essayait de faire, en anglais on dit nullify, c'est que j'empêchais toutes ces transitions. Quand il faisait ses pull guards, je bloquais les hanches, therefore ça bloque les épaules. Quand tu fais du jujitsu, on se demande comment un petit gars peut te tenir un gros gars au sol. C'est juste la façon que je vais bloquer tes hanches ou bloquer tes épaules si je suis en side control. Fait que j'étais tout le temps capable de bloquer tout son hip movement, puis sans tes hanches, tu peux pas attaquer tes armbars, tu peux pas attaquer tes triangles, tu peux pas attaquer tes kimura. Donc Crown a mal paru à cause de moi. Et puis s'il y a des gens qui veulent mettre plus l'emphase sur le fait que le style de Gracie est outdated, je veux juste vous rappeler qu'il détient une victoire contre un homme qui est dans le top 15 en ce moment, puis un combat très rapproché avec très, très durement discipliné avec Cobb, qui était quand même à la fin de sa carrière, mais dans un bon pic. Puis il a fait un fight of the night avec Crown, puis c'est ça, il a battu Alex Caceres qui était un top 15. Fait que les gens qui disent « Ah, il est pas bon », man, il y a eu trois fights extrêmement difficiles pour un gars qui a si peu d'expérience en MMA. Puis c'est ça, quand j'ai su que j'étais matché contre lui, t'as la crainte, est-ce que dans ces trois années-là ou deux années qu'il n'était pas là, il s'est super amélioré ou il va essayer de faire la même chose? Fait que là, c'est là que tu dois arriver avec un mindset de « faut que je me prépare pour les deux ». Parce que si dans ces... Encore une fois, deux, trois années-là, il a augmenté sa boxe, il a augmenté ses takedowns, il a augmenté ci, il a augmenté ça. Mais après ça, je me dis, il est vieux. Les vieux, souvent, tu sais, il y a un slogan en anglais, c'est « can't teach an old dog new tricks ». On ne peut pas apprendre des nouveaux trucs à un vieux chien parce qu'il a vécu sa vie comme d'une certaine manière. Fait que c'est pour ça que je n'étais pas très craintif sur à quel point il avait amélioré son game. Même si, pour vrai, l'entraînement, ça a été le camp le plus difficile de ma vie. On faisait venir des gars du B-Team, là. Il s'appelle Pierre-Olivier Leclerc, lui, tu sais, il s'entraîne avec... avant, c'était le Danaher Dead Squad qui appelait là, à New York.
Il est bien connu à Montréal, Pierrot, et puis même dans le monde du Jiu-Jitsu, oui.
Un monstre, man. Il y avait lui, il y avait Matteo Vogel qui fait justement ses débuts à Contender Series dans pas long pour une chance d'être à l'UFC. Trois fois champion BFL, c'est le numéro un poids plume en ce moment au Canada. Donc lui, il vient à tous les lundis, même j'ai encore des scratchs. Il est venu lundi, puis lui, moi, puis mon frère Louis, on se fout des patates pendant des rounds de fou, là. Puis, mais c'est ça, j'avais tout le temps ces gars-là qui commençaient, puis j'avais tout le temps des handicaps, genre « Hey, tu commences avec mon dos. Après ça, toi, tu as les petits gants, moi, j'ai les gros gants. C'est difficile de faire les échanges avec des gros gants. Fait que le training camp, pour vrai, là, j'en avais marre, man. J'étais plus capable. C'était tellement dur. Puis là, boum, 30-27. Fait que là, ça ouvre les yeux sur le training. Il est horrible. Tu sais, souvent, il y a des gars, je fais une petite parenthèse rapide, c'est des beasts de gym. Les gars pètent tout le monde au gym. Lui, son but, c'est d'être le meilleur au gym. Parce que, puis lui, il veut rester dans ce gym-là. Il veut pas aller dans une place où il se fait challenger, puis il se fait mettre dans des positions inconfortables, etc. Parce que lui, il veut être le king du gym. Puis t'arrives en performance, t'arrives en combat, ça marche plus. C'est facile d'être le bully dans un gym. Mais quand t'as des bons coachs qui te mettent dans des situations dures, terribles, c'est sûr qu'il y a une partie de toi qui déteste ça. Tu sais, des fois, je me levais, là, j'avais de la misère à me lever, j'avais les épaules, le cou, puis je suis comme... Ça ne me tente pas aujourd'hui de commencer avec ces monstres-là dans mon dos. Puis je dois me déprendre. Puis là, tu te fais choquer. Écoute, c'était rendu qu'il y avait même des... J'étais tellement fini. Puis après ça, lui, prend ton dos. Puis là, finalement, j'avais des blue belts. Tu sais, je suis une black belt. Mais j'ai mis mon ego dehors parce que je pouvais avoir des blue belts dans mon dos qui commencent, tu sais, s'il est capable de sunk in un choke. Puis là, boum, je me fais choquer par un blue belt. Mais les gars, ils sont bons. Les gars, je leur enlève rien. Mais quand même, ton ego, il faut que tu la laisses en dehors de la porte. Parce que ça va être extrêmement difficile. On te met dans des situations pour que tu sois... Pour que si ça l'arrive en fight, tu vas savoir quoi faire. Mais man, c'était grueling. C'était très difficile, mais on en est sorti avec un 30-27. Fait que toutes ces heures-là de souffrance ont valu la peine.
Et oui, comme tu dis, c'est vraiment tout le travail qui a payé par shutdown, yes. Au final, Cron Gracie.
Yes, sir.
Yes, excellent. Mais encore félicitations pour cette victoire et puis hâte du prochain combat. Je sais que tu avais, dans une de tes vidéos, j'avais regardé une de tes vidéos où tu parlais des gyms à Montréal. Et puis, j'ai entendu aussi, il y a des bruits de couloir qui se font dans le monde du jiu-jitsu à Montréal, comme quoi c'est assez tough chez BTT, que ça peut être un vrai Shark Tank. Il s'avère que la division dans laquelle tu es au UFC est un vrai shark tank aussi. Mm-hmm. Même en dehors du classement, il y a des brutes, il y a des newcomers comme David Onama, Jack Shaw, Billy Q. Il y a plein, il y a du lourd et puis je ne parle même pas du classement. Hein, tout le monde.
Il y a le Brésilien aussi, Joao Anderson ou quelque chose comme ça. Oui. Là, c'est un Brésilien qui est comme sur 3 first round finish, Flavors Bat contre Danny Gay, etc. Non, il y a des monstres. Sérieusement, je pense 155 et 145, c'est des divisions très deep. Excuse-moi, je t'ai coupé.
Continue. Non, vas-y.
Ben, c'est ça, je voulais juste faire la parenthèse avec toi sur le fait que c'est des divisions qui sont très deep. Puis rentrer dans le classement, le monde dit « Ouais, mais c'est pas un top 15. » Man, c'est des monstres. Parce que si, peut-être que le gars, c'est pas un top 15, mais c'est un future top 15. Tu sais, quand je devais me battre contre Topuria, il était numéro 14. Puis là, regarde ce qu'ils viennent de faire à Emmett. Ouais. Fait qu'il faut arrêter de juste regarder le chiffre. C'est cool, arriver dans le ranking, c'est le fun. Parce que là, maintenant, tu as de quoi à défendre. Tu as comme le petit numéro à côté de ton nom qui fait comme « Wow, man, je suis dans le top 15 du monde. » Mais après ça, tu deviens avec une cible sur ton dos. Fait que ça rend ça encore plus excitant.
OK. Ben regarde, tu as répondu à la question avant que je la pose. C'est bien correct. Toi, j'ai l'impression que tu thrives aussi dans cet environnement-là, quand c'est vraiment compétitif, où tu te retrouves avec que des brutes et que malgré tout, classement, pas classement, comme André Philippe, j'ai l'impression que c'est un peu un gatekeeper du classement, ce gars-là, où tu es obligé de passer la porte.
Ouais.
C'est compliqué à chaque fois chez les featherweight. Mm-hmm.
Ouais.
On va continuer avec une autre question un petit peu plus fun.
Hein. Yes, sir.
C'est un gars qui aime vivre plein de petites aventures aussi. J'ai entendu ça de ta part. Puis t'es un pirate, hein, tu vas chercher l'or. Et comme tous les pirates, tu voyages, t'as traversé la mer de Chine pour aller jusqu'en Corée, traverser l'Atlantique pour revenir dans l'État de New York. Après, t'as traversé toutes les plaines pour aller jusqu'à Vegas, retraverser l'Atlantique pour aller jusque Paris. Mm-hmm. Quel a été l'endroit que tu as préféré pour te battre? Et si tu avais une destination de rêve pour te battre, un endroit, ça peut être un venue, un pays, une atmosphère, peu importe. Qu'est-ce qui te ferait rêver et pourquoi?
La Corée, ça a été mon préféré. J'ai tout plein de... Je suis quelqu'un qui donne beaucoup, tu sais. J'ai donné mes gants après un combat, j'ai donné mes shorts. Je donne tout le temps des trucs parce que pour moi, c'est un token. Puis je sais que la personne qui le reçoit va le chérir plus que moi. Je ne suis pas quelqu'un qui aime énormément les possessions. Mais par contre, il y a une chose que j'ai gardée qui est dans un bac, dans le garde-robe derrière là, puis je n'ai jamais touché, c'est les gants de ma victoire en Corée. Et les shorts. C'était ma première victoire à l'UFC contre Duo Choi, qui était un monstre. Puis ça, j'ai jamais retouché. Le problème, c'est que ma carrière a vraiment sauté pendant le COVID. Fait que souvent, tu sais, on est allé à des places comme Fight Island, mais tu sais, même Dustin Poirier l'avait dit, c'est Prison Island. Tu sais, c'était génial. Tu te rends sur Etihad, dans un avion loué par l'UFC, first class. Tu sais, c'est des billets à 10 000 $ environ. Fait que tu sais, se rendre, c'était cool, mais rendu sur l'Island, il n'y a rien de cool. Tu es dans ta chambre, puis à chaque matin, tu dois aller te faire tester, etc. Fait que tu sais, on n'a pas réussi à enjoy Abu Dhabi à la hauteur de ce que ça aurait dû être. Puis.
Mais je te rassure, hein, les fans étaient déçus aussi. Hein. Nous, le premier truc qu'on s'imaginait, c'était les films de Van Damme ou alors les B-movies des 80s et des 90s. Yes. On était vraiment sur une île tropicale avec un ring, avec de la paille autour, etc. Et puis, c'était absolument pas ça. Quoi. On était déçus, je te le rassure aussi.
Ouais, mais c'est exact. Puis, on bâtit un petit dôme puis tout pour faire les combats. Ça, c'était cool. Quand t'arrives dans un petit dôme de même, je me suis senti un peu comme dans Baki. Et pour les fans de manga, là, il y a comme le Tokyo Dome. Là, j'arrive, là, t'as un petit dôme, puis tu rentres là-dedans, puis il y a juste des journalistes qui te regardent, puis il y a pas de fans. Il y avait peut-être 20 fans dedans. Fait que, tu sais, il y avait de quoi de personnel. Fait que, tu sais, si, mettons, j'y vais en classement, c'est sûr que Vegas, c'est numéro 2. Vegas, il y a de quoi de fou à aller là-bas, parce qu'après le fight, oublie ça, là, c'est, tu vas sur le strip, etc. Puis c'est Vegas, c'est une place vraiment cool. Les gens sont cool. Je me suis battu 3 fois dans les États de New York, New Jersey, Newark, puis Long Island, qui était de la grosse merde. J'ai détesté chaque fois. Puis la commission athlétique de New York a demandé des tests de plus. Fait que, tu sais, c'est tout le temps, mettons, un test, un scan cérébral, un test pour les yeux, un test ci, un test ça. Puis là, ça te coûte 1000 balles pour te battre là-bas. Puis ils rajoutent tout le temps des trucs fatigants. Sinon, c'est ça. Il y a Abu Dhabi. Mais Vegas, for me, ça reste le top avec la Corée. Fait que moi, mon dream, c'est sûr que ce serait le Japon. Il y a quelque chose de culturel d'extrêmement cool là-bas, que tu vois que c'est pas des pays. Puis vite, le fait d'avoir voyagé, tu te rends compte qu'on n'est pas le centre du monde. On pense que l'Amérique, tout le monde devrait être comme nous. Non, les gens, ils ont des valeurs familiales différentes. Ils ont une culture différente. Ils se laissent pas pousser par la victimisation. Tu peux pas arriver au Japon ou en Corée puis commencer à jouer à victime en espérant qu'on te donne une médaille comme ici. Ici, tu finis dernier à la course puis on te donne une médaille puis on dit que t'es bon puis on fait un article sur toi dans El Couille-Couille journal. C'est fatigant. Fait que là-bas, man, on pousse le fait que les gens strive, les gens qui se donnent, les gens acceptent, parce que d'accepter que t'es faible, c'est d'accepter que tu peux devenir plus fort. Fait que les gens sont beaucoup plus humbles, ils ont beaucoup plus d'humilité, puis c'est des cultures où on continue de récompenser l'effort. Puis c'est de quoi que je respecte beaucoup. Donc, un dream pour moi, ce serait de combattre Japon ou encore une fois en Corée. J'ai adoré la culture, j'ai adoré les gens, puis la bouffe, c'était une expérience incroyable.
Cool, bah, c'est sûr. Culturellement parlant, au niveau du MMA, le Japon, c'est l'origine du MMA au final. Donc, je comprends tout à fait. C'est un pays qui est super. Autre question, un peu sur le côté un peu fun aussi. Les partenariats avec toi et l'UFC, ça marche bien en ce moment, j'ai l'impression, avec Howler Head, la marque de whisky aussi. Yes, tu étais parti à Vancouver avec Valentina pour faire des meet and greet avec les fans, etc. Moi, j'ai l'impression que tu es récompensé niveau business un peu, pas seulement pour ce que tu apportes dans la cage, parce que je ne veux pas repasser là-dessus, tu es un fan favorite pour la façon dont tu te bats et les gens aiment regarder tes combats, mais aussi parce que tu es le fun sur les réseaux, tu es quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux, beaucoup d'autodérision, etc. Est-ce que tu crois que c'est cette image que tu as renvoyée, est-ce que ça t'a aidé à aller chercher ces partenariats et puis ces petites sources de revenus supplémentaires, j'imagine, pour lesquelles un fighter ne peut pas refuser, quoi.
Ouais. Oui, parce que le concept de la piraterie, que c'est quelque chose que votre rappeur français, Booba, il parle beaucoup, c'est la liberté. Puis je ne vivrais pas avec des chaînes d'essayer de me prendre trop au sérieux puis de me dire, puis de tout le temps être sur mes réseaux, « I will be a champion one day, I will... » No one cares. Okay? Le monde will only care quand tu vas devenir champion. Les gens vont te donner les props. Tu sais, tu auras la médaille, mais que ce soit le temps d'avoir la médaille. Fait que, le concept de la piraterie, encore une fois, c'est la liberté. C'est le fait que je peux dire ce que je veux. Tu sais, il y a des gens qui disent « Ah, je peux pas dire ça parce que je vais perdre ma job. » Ils vont appeler mon emploi. Essaye d'appeler Dana White pour lui dire que Charles, il est grossophobe. suis pas grossophobe. Si je te dis que t'es gros, t'es gros. Puis tu sais, si je dis que le ciel est bleu, il est bleu. Fait que tu sais, c'est pas... Faut arrêter tout... Encore une fois, c'est toutes mes speeches sur... arrêtez de vous victimiser. Tout le monde s'en crisse. Tout le monde estime manger une grosse sandwich à la merde. Tout le monde est affecté par l'inflation. Tout le monde est affecté partout. Puis on pense qu'on est le personnage principal. Puis on doit... Ouais, c'est comme une guerre de la victimisation. Ouais, moi, je suis victime parce que ça, parce que... J'en ai rien à chier, man. Tout le monde fait de son mieux. Moi, j'ai build la vie que je voulais avec les choix que j'ai faits. Juste pour faire allusion, tu sais, dernière fois, j'avais eu une interview avec Megan Olivi à l'UFC. Puis elle disait, tu sais, à quel point c'est difficile d'être un combattant. J'ai dit, je suis d'accord avec toi, c'est extrêmement difficile, mais c'est pas des difficultés de la vie. La difficulté de la vie, c'est ton gosse, il pogne une tumeur. Ça, c'est une difficulté de la vie. Tu sais, c'est pas quelque chose, c'est que la vie te rentre dedans. Puis il y a des gens là, qui ont des histoires, mon gars, là. Puis après ça, moi, tu me dis que je suis une victime parce que je me challenge à me lever tôt pour aller courir, pour aller me battre. Je fais ce que j'aime. Fait que toutes les difficultés que je fais face, je me les ai mis moi-même pour évoluer.
Ouais, c'est question de choix. J'ai l'impression
exactement, exactement.
Ce que tu ne contrôles pas, c'est dur, c'est normal. Mais est-ce exactement. Que tu contrôles, tu peux le prendre entre tes propres mains.
Bien dit, bien dit. Puis là, il y a des gens qui vont s'arrêter puis dire à quel point ils sont une victime de leur propre choix. Mais c'était con, quoi. C'est toi qui as choisi de faire ça. C'est toi qui as choisi d'avoir 4 kids. Arrête de dire, oui, c'est difficile. Mais c'est toi qui le fais. C'est pas le voisin. En tout cas, c'est le voisin, il y a un problème, il fait un test d'ADN. Là, mais tu vois ce que je veux dire? Je me permets de dire ce que j'ai à dire parce que j'ai beaucoup d'accountability. Puis quand je dis quelque chose, que ce soit une bêtise ou peu importe, I own it. Je le prends. Tu m'entends-tu? Je pense que tu freeze dans mon écran. Tout. T'es rendu où, bro?
J'arrive, 2 secondes.
Tim Hortons, sponsor me. Je vous fais de la pub.
C'est reparti. Désolé, j'ai perdu la caméra.
Non,
c'est ouais, non, mais c'était pour... OK, mais je pense que tu as fait le tour de la question.
Yes, sir.
J'en ai une dernière qui est Vas-y. Encore plus fun. Tu parlais de ta vie, de ce que tu fais, etc. Et je vais aller très loin.
Vas-y.
Et ça va être une question qu'on t'a peut-être pas posée qui va te paraître weird, mais sachant que on est au Québec, je me demande comment tu vas vivre tes beaux jours, ta retraite. Est-ce que tu es plus camp de trappe, chasse à l'arc? Est-ce que tu es plus cabane au bord de l'eau et de la pêche? Ou alors, est-ce qu'en bon pirate, tu comptes finir ta vie dans une île des Caraïbes?
C'est une excellente question. J'adore le froid. J'aime le froid, j'aime le bois. J'aime la nature énormément. Même si j'aime le paysage tropical parce que ça recharge tes batteries d'une façon différente. Fait que, ouais, je vais probablement avoir un condo en Thaïlande que je lèguerai à mes enfants, mais qui veulent vivre la piraterie. Mais je suis plus campagne, bois. Puis j'aime le froid. Comme je dis, j'ai besoin de mon ice bath, j'ai besoin de me réveiller puis de me sentir challengé par notre climat québécois. Fait que un peu des deux.
C'est bon. Moi, j'aime ça, le froid aussi. Tu sais, ça fait 15 ans bientôt que je suis ici et puis je peux plus m'en passer.
Oh man, ça fait du bien. C'est pur. C'est pur, man. Tu sors dehors. Puis mon frère il est allé à l'école longtemps puis il dit que... Je veux pas... Il m'avait dit quelque chose comme le froid n'existe pas, il y a seulement une absence d'énergie. Puis là, c'était mieux expliqué que je vais l'expliquer, mais c'est vrai que c'est cool parce que tu sors et tu sens que tout est mort. Tu sais, tout est mort à l'extérieur. Les arbres sont morts, tout est mort, puis tout. Puis tu as froid, puis ça te challenge. Puis moi, je suis un grand fan de Wim Hof avec toutes ces techniques de respiration, puis de savoir comment tu es capable de transformer tout ce manque d'énergie-là, puis tu respires, puis là, tu augmentes la température de ton corps, etc., un peu comme les moines tibétains qui mettent des serviettes froides sur eux, puis avec, là, ils n'ont pas le droit de rentrer dans le monastère, puis ils sont au top d'une montagne, puis ils mettent des serviettes mouillées sur eux, puis tant que la serviette n'est pas sec, ils ne peuvent pas rentrer, puis ils sont là, au top d'une montagne, il fait froid, il neige, etc., puis ils respirent, ils augmentent leur température corporelle, pour sécher ces serviettes-là, pour après ça pouvoir rentrer à l'intérieur puis mériter leur bol de soupe, etc. Il y a de quoi de challengeant, il y a de quoi de pur là-dedans. Puis c'est ça que j'aime. J'aime n'importe quoi qui rend ça difficile. Tu sais, il n'y a pas grand monde qui aime le froid. Le monde veut le 2 mois d'été québécois puis l'hiver, man, ça part à Cuba ou en Floride. Mais non, ça leur appartient.
Il faut vivre avec des saisons, c'est ce qu'il y a de mieux.
Exact.
On va finir sur ces magnifiques mots. Merci encore, Charles.
Bon.
Puis ben, bon training camp, hein, j'imagine, puisque tu vas doucement y rentrer, vu
Yes.
qu'on est à.
Moi, je le suis déjà.
Allez,
Toujours.
Bah, déjà en plein training camp. Bon courage, vu qu'apparemment, tu as travaillé comme un fou contre Crohn. Et puis, j'imagine que ça va être le même grind contre ton prochain adversaire.
Ouais, sans en dire trop, tu vois, ça sera pas un... ça va être grappling heavy, mais pas autant parce que c'est quelqu'un qui est très créatif au niveau du striking. Fait que ça va être un camp mixé avec de tout. Tu sais, je commencerai pas avec 6 black belts dans mon dos en même temps. Fait que ça va être un peu plus paisible pour moi. On va rester on va essayer de rester un peu plus debout pour celui-là.
Excellent, bah, c'est bien, tu vas pouvoir varier un peu le MMA.
Yes,
et
sir.
On va laisser les fans deviner qui sera ton prochain adversaire. Et puis, merci pour l'annonce. Et puis, vivement l'annonce officielle et surtout, vivement le combat. Merci à toi, Charles. On se reparle bientôt. Bye.
Merci beaucoup, Arnaud. C'était un plaisir. Guillotine Podcast, allez suivre tout de suite.